Génération Prestart.
Génération Prestart.
Try again.
Try again.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Try Again. Aujourd'hui, nous allons parler de Alex Kidd in Miracle World, son Master System, présenté par Nelly. Bonjour Nelly.
Coucou tout le monde.
En pleine forme ?
Oui, ça peut aller.
Comme il faut, c'est parfait.
Un peu la pression, on va essayer de faire de son mieux.
Il faut pas, elle descend toute seule la pression, c'est comme au bar. Ensuite, on va surtout commencer par Ellie qui dans Insert Coins va nous parler de la naissance de Sega, si je me trompe pas, c'est bien ça Ellie ?
Exactement ça, bah pour moi ça baigne, pas de soucis.
Parfait, si ça baigne, c'est que c'est tant mieux. Et on terminera l'émission gentiment avec l'émission Reloaded, présentée aujourd'hui par Lionel. Comment ça va bien ?
Ça va Martin,
ouais. Quoi au programme ? T'as un petit débat, quelque chose ?
Un petit débat, non. Cette fois-ci, on va plutôt aller sur le destin tragique de ce pauvre Alex Kidd.
Ah, ça me plaît déjà un peu plus. Bah écoutez, moi je vous propose de commencer tout de suite avec le thème principal du jeu, qui a été composé par, excusez mon accent, Tokuhiko Uwabo. Voilà, et ben, à tout de suite les enfants.
M57 Radio.
Try again.
Et vous êtes toujours à l'écoute de M57 Radio dans Try Again. Et maintenant c'est la rubrique Insert Coins avec notre ami Ellie. Ellie, à toi, fais-nous rêver.
Donc je vais vous parler de Sega, de sa naissance, un petit peu de son historique. Donc Sega Corporation, l'abréviation c'est en fait l'abréviation de Service Game. Le SE de Service et le GA de Game, ça donne Sega. C'est à la base une société américano-japonaise qui a été fondée en 1954 par David Rosen, qui développe et édite des consoles de salon, des jeux vidéo ainsi que des bornes d'arcade. Ils sont déjà, d'ailleurs très réputés pour ça. En 82, Sega sort la SG-1000 en Orient, suite au crash du jeu vidéo de 1983. Il y a eu un successeur à David Rosen suite à ce crash économique. C'était Yayao Nakayama. Yayao Nakayama. Voilà. Ce dernier prend alors la tête de la filiale américaine. Il a également la SG-1000 marque 1, 2 et 3. C'est un petit peu comme les gilettes.
Oh là là. Ouais, mais si je me trompe pas, je crois que la SG Mark 3, c'est l'équivalent de la Master System chez nous.
Alors, en fait, c'est l'équivalent de la Master System. Après, il y a eu deux types de Master System. En fait, la Master System, donc, elle est commercialisée en 86 et c'est la première console qui est commercialisée internationalement. Il y avait un prix qui tournait aux alentours de $200. Voilà. En 1990, c'est à la Mega Drive de sortir, qui s'appelle la Genesis aux États-Unis.
C'est comme d'habitude, ils n'ont pas foutu de mettre le même nom pour tout le monde.
Ouais, mais en fait, c'est les Américains. Les Américains, si je peux me permettre, c'est des chiens.
Ah ouais, Excusez-moi.
Ils veulent jamais que ce soit comme tout le monde, pareil.
Je l'expliquerai plus en détail dans d'autres émissions, mais ils ont toujours été des champions pour mettre des noms bizarres là où il faut pas.
Mais grave.
Ouais, c'est bien dommage. Changer un nom pour un autre, enfin bon, peu importe, on sait pas pourquoi. Ils peuvent pas se contenter du nom tel qu'il est.
Et surtout, les champions de la jaquette moche.
Oh, on en a des belles jaquettes moches.
Les Megaman.
Voilà. Revenons au sujet, allez Ellie.
Donc Sega forme Sega Soft en 1995, sa nouvelle division de développement sur ordinateur, et lance la Sega Saturn. En 1998, Sega lance la Dreamcast, donc c'est la première console 128 bits commercialisée, avec notamment des jeux assez célèbres comme Shenmue, Soul Calibur, Samba del Amigo, Jet Set Radio, Sega Gaga et bien d'autres.
Elle avait Taxi.
Très belle console.
Elle avait tout pour elle, ouais, malheureusement. Ouais.
Franchement, il y avait de bons jeux, mais après, avec la concurrence de PlayStation 2, la GameCube, la Xbox. Oui.
La GameCube pas... dans une moindre mesure, peut-être, mais.
La ouais. Game Boy Color.
Voilà. Ouais. Donc, Sega avait pour politique de sortir la première console. C'est pareil pour la Sega Saturn. Et après, il y a les rivaux qui sont passés. C'est pas toujours évident. Donc après l'échec commercial de la Dreamcast en 2001, Sega annonce qu'il se consacrera plus qu'à la création de jeux vidéo. Mais il reste quand même très important dans la création de systèmes d'arcade. Le 1er octobre 2004, Sammy Holiday Inc. Corporation annonce le rachat de la société Sega Corporation. La société est totalement intégrée au groupe de la holding et change le nom pour Sega Sammy Holding Inc. Voilà.
Ah ouais, je savais pas.
Moi non plus.
Moi je dis toujours Sega et le reste.
Je connais Samy, je connais Sega, mais je ne savais pas qu'il s'avait été
racheté. Je connaissais Samy de Scooby-Doo, mais c'est tout quoi.
Rien à voir, mais bon, moi aussi je dis Sega, c'est plus simple. Début 2007, Sega prépare un jeu historique en s'associant avec son ancien concurrent de Nintendo. Les mascottes des deux entreprises, à savoir Mario et Sonic, ça tout le monde le sait, seront présentes dans une adaptation des Jeux Olympiques de 2008 de Pékin. Et le nom de ce jeu, c'est Mario Sonic aux Jeux Olympiques.
Tiens, ils ont vraiment fait original pour un nom.
Ouais, c'est original.
Moi, ça m'a vraiment fait bizarre hein, quand j'ai vu les deux mascottes ensemble comme ça.
Moi, ce qui m'a fait le plus bizarre.
C'est contre nature.
Non, le plus bizarre, c'était la sortie de la GameCube. Un des jeux de lancement, c'était Crazy Taxi, quoi. Un jeu Sega. Monkey Ball, Super Monkey Ball, jeu Sega. Et là, tu te dis, ah ouais, on a passé un autre cap, quoi.
Là, c'est vrai tu que comprends ça fait bizarre, plus rien.
Bah, des jeux Sega sur la console Nintendo, pour les anciens fanboys, avec la petite guéguerre Sega Nintendo de l'époque, à Sega. C'est mieux que Nintendo, c'est plus puissant, c'est pour les grands, Nintendo c'est pour les gamins, etc.
On n'y croyait pas, quoi.
Et quand on a vécu, on a grandi avec ça et qu'on se voit avec du jeu Sega sur une Nintendo, ça fait un choc, c'est clair.
Parce qu'on était gosse, on comprenait pas bien ce qui se passait, mais on savait qu'il y avait une guerre Sega Nintendo, et entre voisins, quand on n'avait pas les mêmes consoles, c'était comme tu dis, moi c'est la mienne la meilleure.
C'est pas contre voisins, je sais pas, mais moi à l'époque j'étais môme dans la cour de récré, t'avais des mecs Nintendo, ouais. Enfin je veux dire, c'était deux mondes séparés quoi, ils se faisaient vraiment la guerre. Non, c'est moi qui ai la meilleure, c'est moi qui ai la plus belle, c'est moi qui ai la plus rapide.
Voilà. C'est moi qui ai la plus grosse.
Voilà. On se demande de quoi tu parles là.
La plus rapide, c'est pas toujours une qualité. Bon, pour revenir à ce type de jeu, il y avait F-Zero GX qui est sorti sur GameCube, qui a été fait par Sega. Hein, donc, ils sont
développé par Sega.
Développé par Sega. Ils ont travaillé quand même en association l'un avec l'autre. Hein,
et aussi avec Amazon Fusion de mémoire.
Moi, ça me fait penser à une petite anecdote. Quand j'étais petit, j'allais chez un copain, il avait la NES. On jouait au jeu NES et il me disait à un moment, à quel jeu tu veux jouer? Et bien, comme il y avait un petit autocollant de Sonic sur sa console, je lui dis, ah, mais on pourrait jouer à Sonic là. Et puis il m'a regardé de travers, il m'a fait, mais ça va pas, Sonic il sortira jamais sur une console Nintendo, c'est quasiment pas possible. Là. Enfin, on sait jamais, mais. Et voilà.
Et voilà, c'est fait.
Ça va s'arriver, mais bien plus tard.
Ouais. Est-ce que vous connaissez la devise de Sega?
C'est plus fort que toi.
Voilà, ça. Attends, faut le dire. Sega, c'est plus fort que toi.
Moi, j'aimais bien aussi les publicités japonaises de Sega avec Sega Sata-san Shilo. Je sais pas si vous vous souvenez,
magnifique.
Pour la Saturn. C'était absolument génial, totalement décalé, hein. Univers vraiment fou. Ben, tout de suite, on va s'écouter une nouvelle petite musique d'Alex Kidd qui va aller nager sous l'eau, Underwater. Et on se retrouve tout de suite après sur M57 Radio. Alors, reste avec nous à l'antenne.
M57 Radio, première
radio numérique de Lorraine.
Première radio numérique de Lorraine. We'll be right back.
Prestart. Génération Prestart.
Nous revoilà à l'antenne de M57 Radio, toujours dans Try Again, pour ce coup-ci pour le Versus Mode. Mais juste avant de commencer le Versus Mode, j'aimerais rappeler que nous sommes en partenariat avec culturegames.com, un très bon site. Et puis tout de suite, je vais céder la parole à la reine du jour, Miss Nelly, qui va nous parler donc de Alex Kidd in Miracle World.
Carrément la reine du jour.
Il en faut bien.
Alors pourquoi je vous parle d'Alex Kidd aujourd'hui? Parce que ben, là ça va être un petit peu perso, c'est parce qu'Alex Kidd c'est le héros de mon cœur, parce que ça a été tout simplement le premier jeu auquel j'ai joué sur ma première console de salon, c'est-à-dire la Sega Master System. Donc forcément ben, ça reste gravé, et puis d'autant plus on va voir que pour moi c'est un très bon jeu.
C'était ta toute première fois alors.
C'était ma toute première fois. Alors avant de se lancer dans le jeu, bah faut quand même resituer un petit peu Alex Kidd. Alex Kidd, il a été créé par Hayashida Kotaro, dit Osale Kota, à la demande de Sega, qui voyait tout simplement le succès que remportait Mario, la mascotte de Nintendo. Et voyant que ça marchait formidablement bien, que les gens adhéraient à ce personnage qui ressemble à Monsieur Tout-le-Monde, ils ont décidé de partir un petit peu dans cette même logique. Et la première mascotte de Sega, c'est pas Sonic, c'est Alex Kidd. Alors ils ont copié l'idée, mais évidemment ils n'allaient pas copier non plus le personnage. Ils sont partis un petit peu dans une direction différente, puisque Alex Kidd, c'est un petit garçon tout attachant, avec des grandes oreilles, une grosse tête, et qui sous ses airs inoffensifs évidemment a une arme secrète, une espèce d'énorme poing qui ressemble un peu à un gun box pour fracasser un petit peu tout ce qui va passer près de lui. Bah oui, évidemment il faut bien que sous ses airs inoffensifs il puisse se défendre, parce que sinon ce serait pas très très drôle. Alors si on regarde de plus près Alex Kidd, on se rend compte qu'il a un petit peu des faux airs de Sangoku. Et en particulier dans le premier volet d'Alex Kidd dont on va parler, c'est-à-dire Miracle World. Alors est-ce que c'est fait exprès ou pas? Les rumeurs vont bon train sur internet. Effectivement, Sangoku est sorti avant Alex Kidd, et effectivement si vous allez un petit peu regarder sur internet, il y a vraiment des choses flagrantes, des personnages flagrants, la ressemblance du personnage, et à l'intérieur du jeu vraiment des passages qui ressemblent.
Bon, maintenant Sangoku qui est donc le héros de Dragon Ball.
Voilà, et Sangoku enfant. Hein.
Sangoku enfant.
Voilà. Donc,
Petite question perso.
Ouais.
Je sais que Dragon Ball est basé sur une légende chinoise. Est-ce que pour Alex Kidd, par hasard, c'est pas basé sur cette même licence, bien qu'après ils aient repris, enfin, ils aient pu s'inspirer de Dragon Ball, mais.
Je crois pas. En fait, je crois que c'est sur un. Il y a une espèce. Alors, je sais plus exactement, mais il y a une espèce de jeu de mots qui. Je crois que le nom ou le surnom du créateur veut dire singe ou quelque chose
D'accord.
comme ça. Et que du coup, il y en a aussi qui disent non, il a pas copié, mais si le héros ressemble à un singe, ce serait peut-être à cause de ce jeu de mots. Alors D'accord. je me trompe peut-être dans les détails, mais il me semble dans mes souvenirs que c'est quelque chose comme ça.
Parce que la légende à la base de Dragon Ball, je crois que c'était la légende du roi singe ou quelque chose comme
Alors
ça.
Là,
donc c'est fort possible qu'il
Alex
y ait une correction.
On va voir, il est pas roi, mais on va justement voir un petit peu le scénar. Hein. Donc Alex Kidd, il sort d'abord en France en 1986, et un coup de génie de Sega, c'est-à-dire qu'il sort intégré à la console, à la Master System. Donc ça c'est quand même un coup de génie.
Numéro 2.
Voilà. C'est quand même un coup de génie du point de vue marketing, et on verra que Sega n'a pas toujours eu des coups de génie comme ça, donc il faut quand même le noter. Alors pour moi c'est un bon jeu, et en général un bon jeu ça veut dire bon scénar. Or Alex Kidd, le scénar il est pas terrible. Alors Alex Kidd il est pas roi. Alex Kidd il commence, on sait a priori que ça a l'air d'être un orphelin. Et en fait, le scénario, il est tellement bateau que pour faire passer le scénario, on va en apprendre petit à petit dans tout le jeu. Donc, il va falloir attendre le niveau 4 pour en apprendre plus sur Alex Kidd. Il va rencontrer une espèce de vieux sage dans une espèce de caverne. Un vieux sage qui a des faux airs d'ailleurs de tortue géniale, pour en revenir à la petite anecdote de tout à l'heure. Et ce sage, il sait qui est Alex Kidd. Il a attendu un petit peu pour lui dire. Hein, et il a attendu que le royaume de Radaxian soit en danger, parce que le royaume de Radaxian est sous l'emprise du méchant Jenken le Grand. Et là, au niveau 4, Alex Kidd apprend qu'il est prince de ce royaume, qu'il a été kidnappé, et qu'on lui met sur les épaules la responsabilité de sauver son peuple.
Donc en gros, c'est un prince qui part à la conquête de son pays.
Exactement.
Ok.
Il faut attendre, puisque le scénario est un peu bateau, on va faire des surprises dans le long du jeu, et il faut attendre le niveau 6 pour que Alex Kidd se rende compte que non seulement il est prince de ce pays, de cette contrée, mais qu'en plus il a un frère, et donc non seulement il va délivrer son peuple, mais il va aussi délivrer son frère.
C'est un frère jumeau ?
Non, pas tout à fait. Il lui ressemble, il est plus mince, il a moins des grandes oreilles, il est brun, il lui ressemble, mais c'est pas frère jumeau.
C'est un enfant singe.
Est-ce qu'il y a une femme entre les deux ?
Eh ben, il y a peut-être pas une femme entre les deux, mais il faut attendre la fin du jeu pour découvrir que cerise sur le gâteau, il va délivrer une princesse.
D'accord.
Donc, pour en revenir un petit peu à Mario, le scénar, il est tout aussi bateau.
Ouais, mais là, tu viens de nous dévoiler tout le scénar, en fait.
Ah bah, vous m'avez posé la question.
Il n'y a plus d'intérêt à faire le jeu, en fait.
Savoir, hein.
Moi, j'ai plus besoin de jouer au jeu, maintenant je connais l'histoire.
Justement, l'intérêt, il n'est pas du tout dans le scénar, c'est ce qu'on va voir. C'est pour ça que je me permets de vous raconter un petit peu l'histoire d'Alex Kidd. On nous a d'ailleurs demandé qui était Alex Kidd, donc je réponds un petit peu aux demandes. Et justement, alors, ce scénar, comment il va être compensé pour que ça devienne un bon jeu ? Et ben dès le début d'Alex Kidd, pour compenser ce scénar et puis faire aussi de la concurrence à Mario, dès l'écran titre, vous allumez la console, moi j'ai eu personnellement envie de jouer, pour plusieurs raisons, parce que l'écran titre il est méga coloré, méga kawaii, super, on a envie. La musique dès l'écran titre, elle est géniale, entraînante, d'ailleurs vous entendez en fond et puis vous en entendrez plein. Et puis dernier point fort, c'est que dès l'écran titre on voit, je crois dans mes souvenirs, 4 images du jeu, et dans les 4 images on voit les points forts d'Alex Kidd, c'est-à-dire Alex Kidd dans un hélicoptère, Alex Kidd dans un bateau, Alex Kidd qui lutte contre un boss un peu bizarre, et je sais pas, j'oublie encore quelque chose.
Alex Kidd fait du ski, Alex Kidd...
Mais c'est ça. Et là on se dit, quand on a joué à Mario, on se dit, waouh, mais j'ai pas ça dans Mario, j'ai pas des véhicules comme ça à conduire, je veux y aller, je veux y arriver, je veux découvrir ces véhicules. Donc ça déjà, ça motive dès le départ. Ce qui est de marrant aussi, bah, c'est la façon de taper d'Alex Kidd avec son espèce de main qui se transforme en une espèce de gant de boxe. Alors ça s'explique tout simplement par le fait que, contrairement à Mario qui la plupart du temps fait un parcours horizontal de gauche à droite, traverse un monde en général de gauche à droite assez linéaire, Alex Kidd, il va y avoir beaucoup de zones où on va faire l'inverse, c'est-à-dire aller de haut en bas et descendre des paysages. Et par exemple, dans le premier monde, on commence tout de suite par descendre une montagne. Du coup, impossibilité pour ce personnage de faire comme Mario, c'est-à-dire de sauter sur les ennemis pour les tuer, ça aurait été un peu trop difficile. C'est pour ça
que... facile. Parce que tu tombes dessus, donc.
Bah non, parce que justement, on peut pas se laisser tomber n'importe comment, et voilà, ça rend le jeu, voilà, ça donne déjà une première difficulté, exactement. Ouais, donc, Alex Kidd a une arme qui permet de taper horizontalement, alors que Mario va plutôt taper verticalement.
Avec pied, ses fesses.
Voilà, exactement.
Ouais, la plupart du temps.
Donc ça, c'est quand même une belle, belle originalité. Et dès l'écran titre, on a envie d'avancer, on a envie d'aller vite. Et comme c'est très kawaii, un monde très coloré, très dynamique, les musiques sont très entraînantes, on a envie de foncer vers ces éléments qui nous font oublier que le scénar est complètement bateau.
Ouais, une petite aparté juste 2 secondes. Kawaii pour les néophytes, ça veut dire mignon en japonais.
Ouais, c'est vrai, faut expliquer. Donc c'est très mignon, très coloré. On a l'impression que comme c'est un enfant qui est le héros de cette histoire, on a l'impression que ça va être facile. Eh ben non, ça va pas être facile. Il va falloir réfléchir avant d'agir, que ce soit avec les véhicules, dans les mondes, pour tuer des ennemis. Il va tout le temps falloir réussir à se poser. Et franchement, les musiques n'aident pas à réussir à se poser parce qu'elles sont toujours entraînantes. Donc, dès le premier monde, ça on le comprend bien vite, parce que dès le premier monde, on voit tout ce que Alex Kidd va nous apporter en items, en nouveautés, en jouabilité, etc., etc. Est-ce que je continue, Martin ?
Moi je te propose de faire une toute petite pause, écouter un petit peu de musique pour nos auditeurs, parce que là franchement tu nous as donné envie d'écouter la musique du jeu, quoi. Présenter comme ça, franchement.
Allez-y, moi j'adore, envie, quoi, moi je vais danser.
Donc on va écouter le Sokpako Motorcycle, toujours composé par Tokuhiko Uwabo, excusez-moi toujours pour l'accent, et on se retrouve tout après sur Radio
M57. M57
Radio. We'll be right back.
vous êtes toujours à l'écoute de Try Again sur M57 Radio et je vais pas tarder à redonner la parole à Nelly pour continuer notre magnifique Versus Mode.
Alors donc j'étais en train de dire que Alex Kidd sous ses airs mignons et attrayants et tout ça a une très grande part de difficulté puisqu'il faut toujours réfléchir avant de se jeter dans l'action et pourtant on a envie de se jeter dans l'action. Dès le premier monde on le comprend parce que dès le premier monde on remarque quelque chose de typique dans Alex Kidd, ce sont les fameuses boules. Alors ne rigolez pas les mecs, hein, on va pas faire comme la semaine dernière, pas de jeu de mots. Alors il y a des boules solides qui sont en général rouges et des boules qu'on peut taper qui sont soit comme du caillou, de la roche ou qui sont qui peuvent être aussi bleues, il me semble. Et ces boules, alors on a envie parce que Alex Kidd il a son gun box, on a envie de tout démolir et on se rend vite compte que si on veut ne pas se compliquer la tâche et jouer correctement, il va falloir stratégiquement casser certaines boules ou pas pour pouvoir se placer à hauteur d'ennemis, puisque rappelez-vous, dans le premier monde, on va de bas en haut.
Mais donc pas toujours.
Pas toujours, mais là je parle pour l'instant du premier monde.
D'accord.
C'est là qu'on s'en rend compte, disons, qu'on peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc dès le premier monde, on le sait. Parce que comme ça va de bas en haut et que les ennemis au tout début, ce sont en général des oiseaux méchants, des espèces de rapaces qui volent de manière horizontale, il faut se mettre à hauteur pour se simplifier la chose, il faut se mettre à la bonne hauteur pour taper sur les oiseaux. On peut les taper en sautant et en dégainant le poing, mais ça reste de l'ancienne console, donc c'est un petit peu plus dur à sortir, on va dire, comme coup, plutôt que de se poser à bonne hauteur et de taper quand il arrive.
Enlève-moi d'un doute. Tu me dis que dans le jeu, t'as envie de foncer. Moi, je me souviens que dans Mario, t'as un bouton pour courir, un bouton pour sauter. Que le bouton pour courir, faut aussi le bouton action quand t'as un pouvoir.
Ouais.
Dans Alex Kidd,
il saute pas.
Il court pas. Et donc c'est ça, foncer, mais c'est difficile quand il court pas en fait. Hein.
Mais le problème, c'est qu'il marche quand même relativement vite. Et comme dit, le premier monde descend. Donc on a vite fait de se laisser tomber et de zapper plein de choses, de tomber sur un adversaire, d'aller trop vite.
Donc tu me confirmes bien qu'il n'y a pas de choses où il peut courir par exemple pendant deux fois avant comme ça existe dans d'autres jeux.
Non,
d'accord.
Il saute, il tape et le bouton de saut va servir aussi au véhicule.
D'accord, parce qu'il n'y a que deux boutons. Ouais, okay.
Et il nage.
Et il nage avec le bouton saut aussi. Hein. Oui, dès qu'il y a un déplacement particulier, ça va être le bouton saut à bourriner.
Et en fait, le bouton action, c'est le bouton point, quoi.
Voilà,
en gros.
Tout simplement. Donc, okay. D'où une prise en main très facile qui nous donne envie de jouer très vite et d'avancer très vite. Dès le premier monde, on voit aussi toute la richesse d'Alex Kidd dans les items. On va tout de suite pouvoir avoir la bague qui nous permet de tirer des espèces de boules de feu et qui va traverser horizontalement tout l'écran titre.
C'est un peu copié de Mario, la boule de feu.
Ouais, un peu. C'est vrai, ça rappelle. Elle va faciliter la vie, hein. Elle va faciliter la tâche. Dès le premier monde, on rencontre les cases pièges. Alors, les cases pièges, il y a des cases tête de mort sur lesquelles, si on passe, on va libérer un méchant fantôme qui ressemble à une espèce d'incarnation de la mort.
Il n'est pas violet ?
Non, la case ?
Ouais, non, le fantôme.
Le fantôme, il est gris.
Il est gris
avec une il a une capuche, on voit pas trop son visage en fait.
Il a pas un halo blanc comme ça ?
Non, je crois pas. Il a une canne, une espèce de canne et il vous poursuit. Et alors déjà s'il vous touche, vous faites
et
vous vous envolez très joliment en espèce d'Alex Kidd petit ange et on perd une vie. Et le seul moyen de le zapper ce fantôme, on peut pas le tuer, c'est de faire avancer l'écran plus vite que le fantôme pour que le fantôme disparaisse mangé par l'écran.
D'accord.
Voilà. Et ce fantôme, par contre, il a une particularité, et ça, je ne savais pas, je l'ai trouvé en allant sur Internet travailler, c'est que si on libère ce fantôme, plus loin, il y a des cases de points d'interrogation, et une des cases points d'interrogation va libérer une vie au lieu de donner un item quelconque qui peut nous aider aussi, mais là, il va donner une vie.
Ça, moi, je l'ai appris cette année en jouant au premier niveau du jeu par hasard.
Voilà. Et ben moi, j'ai jamais testé parce que je savais pas, donc j'ai appris ça très récemment.
D'accord.
Et il y a les cascadeaux, donc qui libèrent justement la bague dont on a parlé. Et puis plus loin dans les autres mondes, on découvre d'autres items. Une canne bizarrement volante magique. Donc je sais pas pourquoi une canne fait voler, mais enfin moi une canne qui permet de passer des passages un peu difficiles. Il y a des boules qui permettent d'être invincible, des choses comme ça.
Est-ce que par hasard la canne ce serait pas un rapport genre au parapluie de Mary Poppins ?
Mais peut-être, mais c'est pas un parapluie non plus.
C'est vraiment
une canne ultra moche. Elle ressemble à la canne des fantômes qui nous attaquent et qui eux volent à travers.
C'est peut-être la copie du bâton magique de Sangoku.
C'est ce que j'allais dire justement.
Ouais, la canne de Picsou aussi.
Ouais. Ouais, moi, bon, peut-être la canne des fantômes. On pique peut-être la canne des fantômes, j'en sais rien. Et un dernier item qui est bien sympa, c'est la boule de cristal, mais ça, j'espère qu'on aura le temps d'en parler un petit peu plus tard, parce que ça va avec les boss. Donc, tous ces items très agréables, évidemment, à avoir. On peut les avoir dans les points d'interrogation, mais on peut aussi les acheter dans des magasins qui arrivent à certains moments du jeu, entre des niveaux. Donc, Alex Kidd peut récupérer de l'argent. Et là, encore un vice d'Alex Kidd pour vous montrer qu'Alex Kidd, c'est dur. Évidemment, les paquets d'argent, c'est des espèces de sacs à argent comme les sacs de dollars dans les westerns. D'ailleurs, le signe ressemble un peu au signe dollar. Sont assez souvent dans des endroits assez chiants à atteindre.
Difficile
ou dangereux à atteindre, surtout quand on a des véhicules et qu'on n'a pas envie de les perdre, on le verra tout à l'heure. Et nous mettent dans des pièges. Et des fois, nous mettent tellement dans des pièges que dans les derniers mondes, il y a des sacs qu'on veut absolument avoir parce qu'on sait qu'on va toucher au but. On sait qu'on va avoir besoin peut-être d'items pour y arriver. Et en fait, on se fait braire, pour rester poli, à attraper des sacs d'or, alors qu'après, il n'y a plus de magasin pour acheter des objets.
Ah, ils sont très forts, les level designers. Ils ont compris comment embêter les joueurs.
Voilà, je sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas, ça fout les boules.
C'est du scoring, en fait, après. C'est comptabilisé, quand même.
Peut-être. Alors, on en vient à quelque chose de très intéressant. Ce sont les véhicules. Ça, pour moi, c'est quand même le point super fort d'Alex Kidd. C'est les véhicules qu'il peut avoir. Alors, il y a, je vais essayer de pas en oublier, la moto, le bateau et l'hélicoptère. L'hélicoptère arrive, il me semble, au niveau 5, le bateau au niveau 9, et j'oublie, la moto.
La moto, c'est, je crois, au niveau 2 dès le début, non?
Je crois que c'est très très tôt, ouais, je crois que ça doit être au niveau 2 ou au niveau 3, mais vraiment, vraiment tôt, hein,
il me semble. De ce que j'ai joué dans le jeu, c'est le premier. C'est au niveau 2. Hein.
C'est le premier véhicule qu'on a, et quand on l'a, on est hyper content parce qu'on a le véhicule qu'on a vu à l'écran titre.
Et ça va vite.
On se dit, génial, et là, on fonce. Alors, pour le véhicule, il y a deux touches qui se rajoutent, enfin, qui se rajoute. C'est la touche droite-gauche du pad qui permettent d'accélérer et de freiner. Arrière freine, avant accélère. Et là, on n'a qu'une envie, c'est d'aller à fond. Donc les premiers essais, je ne sais pas si tu as essayé,
ah, bien sûr.
Mais on accélère, quoi.
Oui.
Et on se rend vite compte que, ben non, non. Si tu veux passer et que tu veux que ton véhicule y soit un outil pour t'aider, c'est pas possible. Parce que le véhicule, a priori, il est invincible contre les ennemis, puisque par exemple, la moto écrase les ennemis, le bateau écrase les poissons, je sais plus ce que c'est, les ennemis. Dans le ciel, l'hélicoptère n'est pas invincible, mais il a une espèce de mitraillette pour tirer les ennemis. Donc c'est quand même un avantage. Le problème, c'est qu'on a envie d'aller vite. Ça passe pas parce que la moto elle est pas invincible au bloc qu'on peut pas taper.
Elle peut tomber dans les trous aussi.
Et elle peut tomber dans les trous.
D'accord, mais j'allais te demander c'était quoi justement qui pouvait faire mal à la moto parce que là j'avais un peu mal à saisir.
Donc les boules invincibles qui sont placées à des endroits très stratégiques, je pense. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais je pense.
Je crois que c'est les boules bleues, les boules invincibles, il me semble.
C'est pas les boules rouges?
Les boules rouges, tu peux les détruire?
Je sais plus.
Ils ont pris la pilule bleue. Ils ont choisi l'autre.
Enfin bon, bref, il y a un code couleur que vous comprendrez très simplement. Si moi je l'ai compris quand j'avais 10 ans, je pense que vous le comprendrez. Et du coup, bah, la moto, on a vite fait, au bout de 2 secondes d'avoir accéléré, de perdre la moto. Et là, je dis merde, j'avais la moto. J'ai plus la moto.
En général,
et tous les avantages, ils sont perdus.
C'est un peu frustrant, quoi, parce qu'on est enfin content d'avoir réussi à avoir la moto d'Alex Kidd. Et puis, bon, ça dure rarement longtemps. Et effectivement. Voilà.
Donc, on apprend à doser la moto, on apprend à doser les véhicules. L'hélicoptère, lui, il n'a pas cette vitesse, le bateau, le hors-bord là. L'hélicoptère ne l'a pas. Par contre, l'hélicoptère, ce qui va être piège, c'est que pour faire voler l'hélicoptère, il faut bourriner le bouton saut. Plus on appuie, plus il monte. Et s'il relâche, on descend. Tout d'un coup, j'ai un doute, je me demande si c'est pas l'inverse comme la nage.
Bourriner le bouton saut ou rester enfoncé dessus?
Bourriner.
D'accord. Bourriner, il monte.
Voilà. Bah,
en fait, il pédale et il fait tourner l'hélice.
Alors que pour la nage, il me semble que si on... Non, c'est pareil. Vous testerez. Enfin bon, bref, le problème, c'est que pour l'hélicoptère, la difficulté, c'est que évidemment, comme le but, c'est de le faire aller plutôt vers le haut, les méchants comme la canne, c'est que le méchant programmeur a mis des méchantes boules incassables, fait des lignes horizontales dans les hauteurs, et que donc, si on monte trop, évidemment, il a placé des paquets de sous qui nous allèchent. Si on monte un petit coup de pouce de trop sur la manette, les hélices touchent les boules invincibles et on perd l'hélicoptère.
À la cupidité. Hein.
Tu meurs aussi immédiatement ou tu perds que l'hélicoptère ?
Alors, l'hélicoptère, la moto et le bateau, on ne meurt pas immédiatement. D'accord. Mais évidemment,
sauf
on va...
Sauf dans le trou.
Sauf si on tombe dans un trou. Mais évidemment, on perd un sacré avantage, en particulier avec le bateau et l'hélicoptère, puisqu'on va retomber dans des mondes aquatiques. Et les mondes aquatiques sont en général balèzes.
D'accord, donc en fait, il n'y a pas de vide en dessous directement quand un hélicoptère, non. C'est de la flotte. Quoi.
Bah, c'est-à-dire que la flotte, il n'y a pas beaucoup de flotte et il y a des ennemis dedans. Donc en gros, si je me rappelle bien, dans certains niveaux, on tombe dans l'eau, il y a un cinquième de l'écran qui a de la flotte dessus et vous avez des ennemis dedans. Alors allez les éviter quand vous êtes dans l'eau. Quoi.
Ouais. Bah, tu peux les taper sinon, ouais, c'est un peu tapes. Warrior. Quoi.
Voilà, c'est ça. Après, les ennemis, on peut les taper. Je ne dis pas que le monde n'est pas faisable,
mais c'est
beaucoup plus sympathique de faire le monde dans les airs ou sur l'eau ou sur la moto que quand après on est obligé de se taper les mondes à pattes ou à nage.
D'accord.
Personnellement, j'ai trouvé que les mondes aquatiques étaient quand même plus faciles, globalement.
C'est vrai. Ah non, ouais. Moi, pas du tout. J'ai vraiment galéré sur les mondes aquatiques du fait de ce bouton à bourriner pour faire nager.
Faut doser à chaque fois. Toujours. Si on appuie trop, on se retrouve coincé au mur.
J'ai encore une question par rapport à ces niveaux aquatiques. Est-ce que tu as un fond marin sur lequel tu peux marcher ou alors est-ce que tu tombes dans le vide ?
Alors, Alex Kidd, il me semble qu'il ne tombe pas. Il me semble qu'il flotte automatiquement.
D'accord. Ouais,
c'est pour ça que je réfléchissais tout à l'heure par rapport à l'hélicoptère.
Je vois le niveau où tu nages. Je vois qu'il y a un fond marin. Mais maintenant, j'imagine un niveau que j'ai pas fait, par exemple, avec l'hélicoptère.
Ouais.
Je pars l'hélicoptère. Je tombe dans l'eau. Ouais. J'arrive dans très peu d'eau, comme tu le disais. Ouais. Il y a des ennemis. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a un sol sur lequel je peux marcher ou alors en dessous, c'est du vide
dans ce
et là,
l'hélicoptère.
Je meurs. Si tu nages sur le sol, c'est-à-dire que c'est pas un trou. Mais tu restes horizontal.
Si tu laisses ton personnage sans mettre de direction ou sans pied sur le boutonnage, il va pas tomber dans le vide et crever
non.
En fait.
Non,
il va flotter, je crois.
Voilà, c'est
je crois que c'est l'inverse, il flotte.
Okay.
Donc justement, dans l'eau, c'est comme avec les histoires de boules que je vous disais, où il faut fracasser certaines boules. Dans l'eau, on peut se bloquer en se mettant sous des pierres, se bloquer à des endroits stratégiques pour attendre qu'un ennemi passe, envoie sa boulette de feu, etc., etc. Donc c'est pas facile à gérer. C'est pour ça que moi, les mondes d'eau, chaud.
Les mondes de chaude. En même temps, c'est un singe. Les singes, ça a souvent du mal à nager. Hein.
Ouais, c'est
bien
clair.
Connu.
Et puis, dernière originalité de Mario, ce sont les boss.
De Mario.
Bah, je sais pas ce que je comparais avec la mascotte Mario. Et puis, la semaine dernière, on en a beaucoup parlé. La spécificité des boss, Alex Kidd, ça, c'est quand même grandiose. C'est-à-dire qu'on arrive devant des boss et on se dit, c'est quoi ce truc ? C'est des boss à tête de main. Alors, il y a la main ouverte, il y a la main avec deux doigts et il y a la main fermée. Et là, on comprend très vite qu'en fait, les boss, c'est pas n'importe qui. Ce sont la pierre, le ciseau et la feuille de pierre, papier, ciseau. Donc, on va faire une partie de pierre, papier, ciseau avec ces boss. Alors, ces boss, pour simplifier la chose, la tâche, pour gagner les duels, donc il y a trois manches. Si on en gagne deux, c'est bon.
D'accord.
Pour les premiers boss. Pour simplifier la chose, il y a l'item boule de cristal. L'item boule de cristal est en général très 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 chiant à avoir, placé à des endroits pas possibles et on va perdre des tonnes de vie, parce que on commence avec 3 et on n'en gagne pas des masses. Quand on est fier de l'avoir eu et qu'on se rend compte qu'en fait, les boss, en fait, ils font toujours la même combinaison.
Dans le même ordre.
Déjà, on a les boules. Deuxième chose, la boule de cristal, ok, on lit dans leurs pensées. Mais ces boss à la con, ils sont assez cons pour refaire les mêmes choses tout le temps. Mais ils sont assez intelligents pour changer au dernier moment. C'est-à-dire qu'on croit, on voit dans une bulle qu'ils font feuille. Donc on se prépare à faire ciseaux. Et au dernier moment, ils vont changer. Et nous, on va pas avoir le temps de changer. Donc en fait, la boule de cristal, elle sert à rien. Ne vous faites pas chier à l'avoir.
D'accord.
Ne vous faites pas chier à la prendre.
Et est-ce qu'elle fonctionne d'un monde sur l'autre ? C'est-à-dire, est-ce que tu peux choisir, par exemple, de pas l'activer sur le premier boss pour t'en servir sur le deuxième ?
Il me semble, je ne suis plus sûre. Mais en fait, quand on appuie sur Start, on a un menu.
Oui.
Dans lequel il y a des objets qu'on peut stocker et on peut les utiliser. La canne, on peut l'acheter, l'utiliser plus tard ou l'avoir, l'utiliser plus tard et choisir quel moment stratégique on va l'utiliser. Donc je pense, je mettrai pas ma main coupée, mais je pense que pour les boules de cristal et les autres items, c'est pareil.
C'est pareil. Okay. Il faut toujours avoir une canne sur soi au cas où on est bloqué.
Voilà.
Ça peut toujours aider.
Puis après, quand on avance, les boss se complexifient puisque non seulement on fait le jeu du pierre feuille papier ciseaux, mais en plus il faut leur sauter sur la tête qui va faire des patterns, des mouvements dans l'air, etc. Donc il va falloir leur donner des coups de poing dans la tête pour les dégommer.
Ah, il faut donner des coups de poing, c'est-à-dire sauter sur la tête. J'étais en train de me dire, mais c'est contradictoire par rapport à ce
par dessus les têtes. Ah oui,
les
j'ai
éviter.
Dit sûr,
ouais.
Les éviter, choisir les bons endroits et taper au bon moment pour les dégommé.
Donc comme en fait, après, le taureau, par exemple.
Après, t'as une phase de combat, en fait. C'est-à-dire que d'abord, tu fais pierre, feuille, ciseaux. Après, ils se mettent à bouger. Ouais. Là, tu passes derrière eux et tu leur mets des coups.
Ouais. Pas les premiers boss, okay. Les boss suivants.
Okay.
Et puis, j'ai presque fini. Je suis dans les temps, Martin.
Ah, parfait.
Donc, j'aimerais juste rajouter que malheureusement... Alors il y avait très peu, il n'y a pas eu de différence entre la version Jap et la nôtre, donc on avait eu beaucoup de chance. La seule différence, c'est que pour finir le monde, chez nous, Alex Kidd mangeait un hamburger, ça fait plus ricain. Et alors qu'au Japon, il mangeait une boule de riz, des onigiri. Donc on avait eu la chance d'avoir un bon Alex Kidd et malheureusement Alex Kidd va très vite perdre de cette voilà. Moi je trouve que ça s'explique du fait du marketing hein, parce que quand on voit la différence entre la jaquette Jap belle colorée avec un Alex Kidd ressemblant avec un boss qui est sur la jaquette, un fond coloré qui nous donne l'eau à la bouche et la jaquette Sega Master System avec le quadrillage bleu habituel pour fond, donc du vide dans le fond, le bonhomme est ridiculement dessiné, il est boulon aux yeux bleus, il a son poing, on dirait qu'il a été piqué par une abeille. Donc pour moi c'est vraiment ridicule et ça donne pas envie. Donc heureusement que le jeu il a été intégré à la console, parce que moi la jaquette elle m'aurait vraiment pas envie de jouer à Alex Kidd, quoi.
Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que les jaquettes des jeux Master System, c'est une catastrophe pure et dure.
Bah déjà, il y a toujours ce quadrillage
en Europe,
bleu. C'est les lignes bleues sur fond blanc.
Et ça ressemble à rien.
Et donc, on voit très rarement le fond des jeux, à quoi vont ressembler les.
Il faut que tu retournes la boîte pour qu'à l'arrière, tu aies d'autres images de jeu, je crois. Trois images.
Ouais, c'est ça, c'est ça.
Donc, franchement, ça donne pas envie.
Non, mais c'est vrai qu'on sait que c'est du jeu Master System tout de suite, hein, parce que quand c'est moche, la jaquette, on sait que c'est Master System, quoi. C'est tellement. Puis ils ont ce code couleur, effectivement, on reconnaît que c'est du jeu Master System, mais ils auraient peut-être dû plus mettre l'accent sur le fait que que le jeu, il a attiré les gens sur le jeu et pas sur le fait que c'est de Master System, quoi.
Alors donc, Alex Kidd, il va pas mourir tout de suite, hein, mais moi je trouve que ça fait. C'est ça aussi qui a fait perdre, comme tu dis, de sa brillance au personnage. Hein.
Je disais sur Mega Drive, en fait, c'est l'inverse parce que c'est fond noir avec des quadrillages blancs.
Ouais, c'est vrai. Ils ont gardé ce code-là qui bouffe encore une grande partie des jaquettes, malheureusement, alors qu'ils auraient pu donner envie parce que Alex Kidd, en quatre images dans l'écran titre, on a envie. On a envie.
Et là, en une image pourrie, ils ont démonté le jeu.
Voilà, ils démontent le jeu. C'est même pas le même personnage, quoi. Ouais, le personnage, il ressemble même pas.
Je t'invite à regarder la jaquette de Mega Man 1 sur NES aux États-Unis et de regarder le jeu. Tu verras.
Ouais, une belle horreur.
Et c'est vraiment dommage parce qu'ils avaient fait l'effort quand même de nous laisser le même jeu que la version d'origine, quoi. Donc on perdait rien du jeu à part le hamburger et la boulette de riz, mais on perdait rien. Et puis là.
On a perdu des choses. Voilà. En attendant, écoutez les enfants, moi je vous propose qu'on écoute le thème du château, toujours composé par notre ami Tokaiko Uwabo, et puis on va se retrouver tout de suite après pour un magnifique Reloaded. A tout de suite.
M57,
un maximum de musique.
Un maximum de
musique. M57 Radio.
It's and move.
It's and move. We'll be right back. Prestart.
Génération Prestart.
Et vous êtes toujours à l'écoute de Try Again sur M57 Radio. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook si vous avez des réactions à faire, des petites questions, des suggestions peut-être pour les prochaines émissions. Allez savoir. En attendant, moi je cède la parole à notre ami Lionel qui nous a préparé un beau Reloaded.
Donc voilà, donc moi je vais vous parler de la fin d'Alex Kidd parce que beaucoup de jeunes doivent peu connaître aujourd'hui Alex Kidd parce que quand on parle Sega, la première chose qui nous vient à l'esprit, qu'est-ce que c'est ?
Sonic.
Voilà, Sonic, parce que Sega a depuis bien longtemps remplacé sa mascotte d'origine.
91 Sonic.
Voilà, donc.
Quelle année Alex Kidd, rappelle-moi ?
86.
Ah, donc il y a quand même eu 5 ans où ils avaient pas de. Enfin, où Alex Kidd était en théorie resté leur mascotte, quoi.
C'est ça.
Mais je pense que c'est ce que Lionel va dire. Il est pas mort tout de suite, quand même. Hein.
Ouais, ils l'ont pas enterré non plus. Alex Kidd existe toujours. Mais bon, disons que. Il y a eu Alex Kidd Miracle World. Et on l'a retrouvé dans Alex Kidd The Lost Star en 89, donc 3 ans plus tard, toujours sur Master System. Et où on le retrouve avec son ami Stella. Et c'est pas un jeu que je connais particulièrement, mais
a priori je l'ai pas testé, mais tout ce que j'ai entendu c'est qu'il était très dur. Et de ce que j'en ai vu, alors on n'est plus tout à fait dans le même délire au point de vue des paysages, etc. C'est plus le même contraste de couleurs, le même plaisir kawaii. De nouveau, c'est un peu différent. Et donc, par contre, la difficulté, elle est toujours là.
Ouais, et apparemment, la jaquette pourrie aussi, d'ailleurs.
Et Stella, c'est celle qu'on a libérée dans le 1 ou pas, là, qui était entre les deux ?
Écoute, je crois pas, parce que moi, dans mes recherches, la princesse du 1 s'appelait Laura.
D'accord.
Et là, elle s'appelle Stella. Alors,
à savoir entre les différentes versions et traductions.
Est-ce que c'est la même, mais pas avec le même prénom à cause des traductions ou pas ?
Je pose la question.
Ouais,
on avait eu des débats sur Peach, Daisy et compagnie.
En tout cas, a priori, c'est sa petite copine, puisqu'elle lui vient en aide. Elle l'aime bien. Elle
fait des bisous sur le nez, des gâteaux ?
Je crois pas.
Des boulettes de riz ?
Des boulettes de riz.
Des hamburgers.
Voilà, donc pour en revenir à notre ami Alex Kidd. On l'a retrouvé dans Alex Kidd, dans Alex Kidd et In High Tech World.
Alors
avant, il y avait eu, il avait fait une apparition dans Alex Kidd BMX.
Alors non, pas une apparition, hein, c'était un vrai jeu avec Alex Kidd qui conduisait des BMX.
C'était un jeu de course.
Un vrai jeu de course.
Ça ressemble à Paper Mario. Qu'on n'a jamais vu chez nous.
Il est sorti où ? États-Unis, Japon.
Au Japon
uniquement.
Et en fait, on l'a pas vu chez nous parce qu'en fait, pour jouer à ce jeu, il y avait une manette spéciale.
D'accord.
Un pad spécial. Et je pense qu'ils ont pas voulu faire l'effort de le commercialiser ailleurs. Je sais pas si ça a marché.
À ma connaissance, il est sorti que au Japon. Hein.
Ouais, que au Japon. Je crois que ça a marché au Japon. Hein. Mais
ça a roulé même.
Chez nous, du fait de cette manette, ils l'ont pas sorti. Donc, dommage parce qu'il paraît que c'était pas un mauvais jeu.
Okay.
Et que la manette était vraiment sympa. Il y avait une molette, a priori. Pour les déplacements.
Sur un Pong.
Ouais,
il y avait des Pongs avec des molettes ou des. Comment ça s'appelle maintenant ? Arkanoid aussi avec
une molette.
Molette à la place.
En tout cas, je sais qu'il y avait une molette, mais j'ai pas testé puisqu'il n'est pas venu jusqu'à chez nous.
Bon, d'accord. Après, si c'est pour avoir de nouveau un ultime accessoire qui ne sert que dans un jeu et qu'on ne ressort plus du placard. Bon,
après, ça prend de la valeur aussi.
Ça prend de la valeur. Et on peut toujours le trouver en import éventuellement. Ça peut peut-être se trouver encore de nos jours. Donc voilà. Donc ensuite, on a vu notre Alex Kidd. In High Tech World, alors un petit jeu de rôle plutôt pas mal avec des petites énigmes, des quiz, des objets à trouver et des phases d'action.
Alors, je me souviens, moi j'y ai joué chez mon coiffeur parce que quand j'étais petit, j'allais chez un coiffeur chez lequel on peut jouer aux jeux vidéo ou regarder un dessin animé.
Wow. L'homme a l'anecdote, mais toujours terrible. Quoi.
Ouais,
il y a pas une émission sans une anecdote de son enfance, de sa vie sur un truc de jeu vidéo.
Je voulais pas couper les cheveux en quatre, désolé.
Alors,
le principe c'est que ce jeu en fait n'a pas vraiment de rapport avec Alex Kidd à la
pas
base.
Du tout.
Puisqu'en fait, Alex Kidd a été placé là plutôt par hasard, on va dire, puisqu'il vient remplacer une princesse qui était l'héroïne du jeu, quoi.
Tout à fait.
Donc en fait, t'es en train de nous dire qu'au Japon, ils ont eu le jeu sous un autre nom sans Alex Kidd, mais que pour nous, pour l'importer, ils ont remplacé le personnage principal.
C'est grosso modo ça, ouais.
Un peu comme on a eu avec d'autres jeux, genre Mario Bros 2, qui était Doki Doki Panic en japonais.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, le jeu n'avait rien à voir, et puis ils se sont dit, plutôt pour le faire vendre, allez, Alex Kidd, c'est la mascotte. Bon, tiens, on va en remplacer le sprite. d'Alex Kidd, de la princesse, on met Alex Kidd à la place et puis
donc ce jeu, soit on l'aime, soit on l'aime pas. Parce que alors moi je l'ai beaucoup aimé.
Moi aussi.
Mais parce que j'ai réussi à faire abstraction du personnage que j'avais connu dans le 1 et que je me suis attachée parce qu'il fallait trouver des objets, pas faire certaines actions avant d'en faire d'autres, répondre à des quiz, etc. Mais par contre, les vrais puristes d'Alex Kidd, ils vont pas l'aimer parce que c'est pas Alex Kidd à la base et on sent que c'est pas une aventure d'Alex Kidd. Et ça se sent.
Et si maintenant tu avais dû acheter ce jeu à l'époque sans la licence Alex Kidd, est-ce que tu l'aurais tenté ou pas?
Alors,
ah, c'est la vraie question. Ça.
Le souci, c'est que je l'ai pas tenté à l'époque ce jeu. Je l'ai découvert plus tard, un peu par hasard, parce qu'on me l'a offert. Donc
d'accord.
Finalement, j'ai pas eu le choix d'y jouer. Et j'y ai rejoué dernièrement parce que j'avais jamais réussi à le finir parce qu'il était en anglais. Quand j'étais petite, l'anglais c'était un peu difficile. Et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Donc moi, je conseille d'y jouer. Mais de faire abstraction, c'est pas un Alex Kidd pour moi.
D'accord.
Il y a une deuxième phase hein, quand même. Il y a une phase après, une fois qu'on a fini la phase palais, on retrouve quand même, il me semble qu'ils l'ont rajouté exprès parce que c'est Alex Kidd, où on est dans une forêt et où on retrouve des ennemis à taper, etc. Mais c'est vraiment juste une excuse.
Ce serait un truc
exclusif. Je crois bien. Je pourrais pas y mettre ma main à couper, mais j'y crois bien. Mais c'est juste une excuse pour dire voilà, c'est du Alex Kidd, mais c'est pas du Alex Kidd.
Ok.
Voilà, et donc, on saute de console, même si la Master System n'est pas forcément morte à ce moment-là, on va en parler après. Mais en 1989 également, on a eu la sortie de Alex Kidd in Enchanted Castle.
C'était sur Mega Drive.
C'était sur Mega Drive. Et alors là, ne parlons pas de la jaquette. Hein, ils ont le fort quand même pour caricaturer les personnages. C'est un peu hallucinant.
C'est beau.
Ouais, c'est magnifique. Encore du grand art des artworkers. Enfin bon, voilà. Il n'y a rien à en dire. Et donc, voilà, il reprend plus ou moins, il revient aux bases de Alex Kidd in Miracle World.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est du jeu. Mais bon, apparemment, il a pas eu un succès.
Les monstres reviennent, on retrouve les monstres,
on retrouve les
couleurs, les paysages, donc on est heureux. Par contre, jouabilité et niveau difficulté très dur, donc il a fait. Il est souvent décrié.
Voilà,
malheureusement.
Un jeu moyen.
Moi, je l'ai essayé, j'avais aussi essayé la version Master System, rapide, hein, un deux niveaux même pas. Et honnêtement, la version Mega Drive, elle m'a pas du tout donné envie. Autant la version Master System, j'y ai rejoué cette année encore. Ouais, j'ai eu enfin. Voilà, c'est vrai que ça donne envie, quoi. La version Mega Drive, le jeu, la boîte plus beau, il a rien, quoi.
Et pourtant, c'est celui qui se rapproche le plus, du coup, de l'esprit de base. Mais ça a pas pris parce qu'ils ont pas soigné le reste, quoi.
Ouais. Est-ce que c'était la même équipe de développement?
Aucune idée.
D'accord.
Bonne question, on se renseignera. Mais donc, pour en revenir donc à Alex Kidd, on a donc eu en 90, de nouveau sur la Master System, donc on fait un petit retour en arrière, le jeu est sorti de nouveau sur la Master System, Alex Kidd in Shinobi World. Alors, c'est un bon jeu en soi, c'est-à-dire c'est
même
un
très bon.
Très bon jeu, sympathique à jouer, je l'ai pour ma part un peu essayé, c'est vrai qu'il était assez agréable. Mais par contre... Encore une fois, pour le joueur néophyte qui n'a pas forcément suivi, c'est vrai qu'à l'époque on n'avait pas internet et tout ça quand les jeux sont sortis, donc pour le joueur qui le sait pas, il se dit mais c'est pas du Alex Kidd. Et effectivement, c'est de nouveau pas du Alex Kidd. C'est-à-dire qu'à la base, le jeu s'appelait Shinobi Kidd et c'était pas du tout prévu que Alex Kidd en soit le héros, et puis bah encore une fois.
En gros, ils ont refait le coup une deuxième fois de remettre Alex Kidd pour faire
exactement.
Vendre.
Exactement.
Voilà.
Ah, si ça marche.
on se dit, oui, après tout, s'il y a des gens pour l'acheter, mais bon, c'est des fois ce genre de choses qui finissent par tuer une licence, quoi, parce que on se retrouve avec un jeu qui a plus d'âme, et c'est peut-être. Bon, on extrapole, mais c'est peut-être ce genre de choses, le fait de mettre un peu du Alex Kidd à toutes les sauces, sans forcément garder. Ça peut être fait, plus ou moins bien. On peut dire Mario avec Nintendo avec Mario, on peut dire qu'ils l'ont mis, ils l'ont cuisiné à toutes les sauces. Mais bon, après faire ça, si on sort que des bons jeux avec le personnage, ça passe. Si après il y en a quelques-uns qui tâchent un peu l'esprit du jeu en lui-même, on se retrouve vite avec du.
Voilà.
des aveux de...
Moi, je suis d'accord avec toi. Après, Shinobi World, c'est un très bon jeu avec ninja, armes de ninja, pouvoir de ninja, etc. Donc, beaucoup ont oublié, ont mis Alex Kidd de côté et ont quand même beaucoup apprécié le jeu et joué beaucoup. Mais là encore, pour moi, il faut mettre le personnage... Faut pas prendre le jeu en se disant « Ouais, je vais retrouver, moi, Alex Kidd, son point qui gonfle pour taper les ennemis, etc. » Plus du tout, il n'y a plus du tout ça, quoi.
Donc, pour en revenir à répondre à la question de Martin, donc Alex Kidd in Miracle World et Alex Kidd in Enchanted Castle ont tous les deux été développés par Sega. Alors maintenant, de dire si en 3 ans on retrouve les mêmes développeurs chez Sega, faudrait creuser un peu plus, mais c'est Sega qui a développé le jeu.
D'accord. Moi, j'ai une dernière question très rapide à tous avant de dire au revoir aux auditeurs. Est-ce que vous avez envie de voir Alex Kidd revenir sur une console nouvelle génération avec un jeu de plateforme 3D? Oui.
Ah ouais.
Oh oui, et de manière moins ridicule que les apparitions qu'il a fait dans plein de jeux du style le tennis Sega machin. Là.
Moi j'étais plutôt Nintendo, donc je veux dire
t'en fous.
Ouais, voilà, je vais pas dire que je m'en fous, mais on va dire que c'est pas un héros de mon enfance, quoi. Donc je l'ai découvert que plus tard aussi, j'ai apprécié le jeu et sa difficulté voilà, et le jeu en lui-même que t'es sympathique, mais c'est vrai qu'il n'y a pas la même nostalgie, donc voilà quoi.
D'accord, bah écoutez, sur ces belles paroles, on va rendre l'antenne parce qu'il se fait déjà tard, c'est dommage. On va donner rendez-vous à tout le monde la semaine prochaine, on va faire un joli petit au revoir général. Au revoir les enfants.
Et prenez plaisir à écouter la dernière chanson. Si vous appelez les chansons, les musiques d'habitude, écoutez celle-là, elle est fantastique.
C'est la meilleure là.
Donc moi je vous invite juste à dire que la semaine prochaine, Nina nous a préparé un sujet d'enfer sur Final Fantasy VII et que le dernier titre qu'on va écouter, c'est The Alex Kidd Song avec la musique et les paroles qui sont composées par Tokaiku ou Abu et surtout la chanson qui est chantée par Mitsuyoshi Takenobu. Allez, à la semaine prochaine les
bye
enfants.
Bye.
Ciao ciao.
Salut.
M57 Radio.
Génération Prestart.
Génération Prestart.
En partenariat avec culturegames.com. Game over.